L'accord du 30 août a dit qu'il était salué alors qu'il n'apportait pas de solution à la question de l'exportation des médicaments génériques.
Il était salué d'abord, il était salué sur les pays du Nord, par les laboratoires pharmaceutiques et par l'OMC en elle-même. La première raison, et la raison principale, c'est que en gros, ça leur permettait de se débarrasser de ce sujet. Ça fait plusieurs années qu'il y a un conflit entre les pays du Nord et les pays du Sud sur la question de la propriété intellectuelle et de l'accès aux médicaments génériques. C'est un sujet qui est très bon, qui a été très médiatique. C'est un sujet très symbolique puisqu'il est question de santé, de vie et de mort. Donc c'était pas facile pour les pays du Nord de se débrouiller avec ce truc-là. Et enfin, c'était facile pour les associations et pour les malades de leur donner le mauvais rôle. En gros, leur objectif, c'était essayer de se débarrasser de ce truc une bonne fois pour toutes et surtout faire en sorte que ça ne vienne pas à Cancun. Effectivement, il y a un certain nombre de pays du Sud qui se sont félicités eux-mêmes de l'accord. Tout le monde est bien d'accord pour admettre que l'accord est complexe, très certainement inutilisable, etc., etc. Et voilà, enfin bon, et là ça parle pas que de l'accès aux médicaments, ça parle de comment ça se passe des négociations à l'OMC. Les pays du Sud conscients de ce que peuvent être leurs intérêts. Sur un dossier technique comme celui-là, ça peut arriver qu'il y a moins de négociateurs dans les délégations du Sud, donc éventuellement les gens ont plus de temps à être au fait des détails du texte qui peut être discuté. Il y a aussi le fait que généralement les textes sont quand même écrits plutôt par les gens du Nord et donc plutôt dans leur intérêt, le temps aux gens du Sud de démêler l'affaire pour comprendre un peu de quoi il s'agit. Et enfin, les gens ne sont pas idiots, donc dans le Sud, ils sont tout à fait capables de voir que le texte ne leur convient pas, ils auraient besoin. Une négociation, c'est des pressions de toutes sortes, c'est des pressions dans le bilatéral, c'est des chantages et des menaces, c'est des pressions de certaines industries qui sont parties prenantes, en l'occurrence l'industrie pharmaceutique. Dans l'espace d'une nuit, 24 pays qui étaient contre changent de position et le lendemain tout le monde est d'accord et le texte est signé.
Donc vous êtes parti à 3 à l'OMC et à Cancun, qu'est-ce que vous pensiez pouvoir venir et comment vous comptiez agir?
Et c'était le sommet de l'OMC. En attendant, notre sujet sur les médicaments, il était déjà validé. Et donc, en fait, sur cet accord-là, il n'y avait pas besoin qu'il y ait une validation supplémentaire par l'ensemble des États membres à Cancun pour que le texte soit effectif. Donc, un des objectifs pour nous, c'était éventuellement, dans un travail de lobby vis-à-vis des délégations, essayer de faire en sorte que la façon dont on parlait de l'accord dans la déclaration soit intéressante, c'est-à-dire on commence à semer le doute sur le fait que cette solution était utilisable. Voilà, ça c'était pour nous un enjeu, mais le principal enjeu c'était un enjeu médiatique, puisque ce qu'on a pu voir dès que l'annonce de l'accord a été faite, effectivement les grosses machines de com de l'OMC, des labos, des pays du Nord se mettent en route pour dire voilà, on a trouvé une solution pour les malades des pays pauvres, c'est l'OMC à visage humain, etc., etc.
Compte tenu du fait que l'accord était censé avoir réglé la question, comment avez-vous été accueilli par les délégations des pays du Sud?
Quand on est arrivé à Cancun, on s'est réunis entre ONG donc, qui sont impliquées sur cette question-là. Donc il y avait Paris, il y avait Stop aux États-Unis et les gens d'Health Gap, donc les activistes américains. Il y avait FAM, il y avait SEF, il y avait HAI, enfin toutes les associations qui travaillent de là-bas. Et évidemment, enfin, on s'est dit, bon bah voilà, maintenant qu'est-ce qu'on fait? Il y a cet enjeu médiatique dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi les relations avec les pays du Sud. Est-ce qu'on peut essayer de bosser avec eux à Cancun? Et rapidement, on est plutôt arrivé à la conclusion qu'on ne pouvait pas.
Il y a vraiment un côté omerta sur ce sujet de « on n'en parle pas et on ne veut pas en parler » parce que c'est réglé, d'une part, c'était le « faut fuir, c'est réglé ». Et puis sinon, de toute façon, voilà, ne remettez pas ça sur le tapis, on a d'autres chats à fouetter. Donc c'était assez délicat. Mais officieusement, on a rencontré des délégués qui nous disaient que oui, c'était pas très bien, c'était pas un bon, mais que pour l'instant, politiquement, dans leur stratégie à eux, c'était plus intéressant de ne rien dire et de travailler d'autres secteurs.
À Cancun, quelle forme a pris le travail avec les mouvements altermondialistes?
C'était notamment avec la Confédération Paysanne, mais on avait déjà travaillé avec eux avant à Doha, et ils sont à la fois par nos modes d'action d'une part, et puis par les sujets, parce que... bientôt aussi ils vont avoir affaire au laboratoire sur tout ce qui est question de profitabilité du vivant et
un échange de bons procédés. Par exemple, je pense que pour nous c'est vraiment intéressant de voir que en ce moment la Confédération Paysanne, quand elle parle de l'OMC, quand elle parle de Cancun, elle parle des médicaments. Et si ces groupes voient nous perdre sur le médicament, ils savent aussi que ça veut dire que ça va être très difficile sur d'autres sujets.
Si on, effectivement on arrive à l'emporter sur cette question-là à l'OMC, et ben voilà, on ouvre des brèches dans lesquelles d'autres vont s'engouffrer sur d'autres questions.
Mis à part le lobby, quelles actions avez-vous menées ?
On a organisé une petite, un petit ZAP qui était très sympathique. Donc le ZAP consistait à s'enrouler de sparadrap rouge avec des affichettes qui demandent l'accès aux médicaments et l'accès aux médicaments génériques. Et donc c'est une sorte de happening qu'on a fait dans le centre de France. Donc l'intérêt de ce genre de truc, c'est qu'évidemment ça attire instantanément des mains de journalistes. En fait, on se saucissonnait de scotch et en même temps, il fallait qu'on puisse quand même marcher et bouger les bras. Donc, on s'était retrouvés devant les toilettes pour aller se préparer. On était obligés de faire un groupe de garçons, un groupe de filles parce que les toilettes n'étaient pas mixtes, évidemment. On n'avait pas fait, les toilettes étaient juste à côté du poste de sécurité. Donc, on est resté à peu près 20 minutes devant les toilettes à préparer notre coup, la disorganisation du ZAP. Donc, au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de gens de la sécurité autour des toilettes. Ils se rendaient bien compte que quelque chose se passait. Ensuite, on a fait deux groupes chacun dans ces toilettes. On a commencé à se préparer. Et puis, il y a une fille qui, donc, simplement, allait aux toilettes et qui était journaliste. Et quand elle a vu qu'on était en train de se préparer, elle a commandé des photos de nos préparatifs. Et puis, ensuite, elle est retournée dans la salle de presse et elle a appelé plein de médias. Et c'était chose parce que, petit à petit, la sécurité s'était dit que, quand même, il fallait intervenir. Et donc, ils avaient fini par les garçons à l'intérieur des toilettes des garçons. Donc au bout d'un moment, on s'appelle sur les téléphones portables en se disant « bon, ça y est, on y va ». Et là, eux nous disent « ben non, parce que la sécurité vient de fermer la porte et on ne peut plus sortir des toilettes ». Et puis, il y avait une émeute de journalistes devant les toilettes, donc finalement, ils ont été obligés de nous laisser sortir. Donc ça a été...
On a eu l'impression que le dispositif de sécurité était particulièrement impressionnant. Comment est-ce que vous l'avez ressenti ?
Même si au fur et à mesure des jours qui passaient, la sécurité a vraiment grandi. C'est-à-dire que du premier jour où il y a eu tout de suite le lundi matin contre l'OMC... pendant la cérémonie d'ouverture où il n'y a pas eu de contrôle ni des sacs pour voir s'il y avait des pancartes par exemple, le lendemain nous on a fait notre action où déjà la sécurité est chillante et au fur et à mesure il y a des actions de rue dans la zone hôtelière et en face du centre de convention et vraiment les derniers jours c'était le pire où moi sur 500 mètres je me suis fait contrôler 3 fois pour rejoindre la zone, je me souviens que pour rejoindre la zone de mon hôtel jusqu'à la zone de l'OMC on s'est fait contrôler 11 fois dans le bus, donc tous les kilomètres, il fallait qu'on montre notre carte, il fouillait des sacs. À l'entrée, on avait aussi une sorte de vidéo reconnaissance, je veux dire. Tous les sacs au rayon X. Et c'était une pression qui était faite, parce que moi, dans la route, je marchais d'un hôtel à l'autre, parce que c'est comme ça que ça se passait, malheureusement, c'est un hôtel super luxueux et en salle climatisée. Et bien, d'hôtel à hôtel, je pouvais me faire contrôler... par les policiers, et puis 200 mètres plus loin, me faire contrôler par d'autres policiers qui m'avaient vu me faire contrôler avant, mais qui me recontrôlent. C'était vraiment des mesures d'intimidation pour éviter toute action. Mais ce qui était intéressant, et moi ce que je n'avais pas vu avant dans les grosses conférences, c'est qu'on avait un peu tous les mêmes modes d'action, c'était des petits groupes, et on faisait du bruit, enfin c'était des actions à la ACT UP, et ça marchait plutôt bien.
Et quel est le statut de l'accord du 30 août aujourd'hui ?
C'est un statut très très étrange. Le lendemain de sa validation, il y a eu une réunion à l'OMC et un certain nombre de gens ont posé notamment la question du statut légal. Et la réponse du président de l'OMC, ça a été « je ne sais pas ».
Bon, finalement, pour toi, qu'est-ce qui ressort de cette conférence ?
Globalement... Enfin, si je me place en tant qu'activiste anti-sida, c'était assez difficile d'être là-bas, parce que le jeu était déjà joué, en fait. On avait vraiment peu d'ouverture. Après ça, que la conférence ait capoté, et que pour une fois, au dernier moment, les pays en développement ont réussi à dire non, ça c'est très bénéfique, c'est personnellement, ça me fait vraiment plaisir, et... On peut se dire que du coup, par contre, on pourra travailler. Il y a d'autres, les opportunités sont plus nombreuses maintenant pour pousser les pays en développement à dire bon, bah, vous avez dit non sur l'agriculture, vous avez dit non sur la GCF, vous avez dit non sur la compétition, vous pouvez dire non encore sur les médicaments. Vous avez tout à y gagner. Il y a un levier supplémentaire maintenant, d'après Cancun.
Chloé, est-ce que tu pourrais nous dire en deux mots à quoi ressemblerait un accord satisfaisant sur les médicaments génériques ?
Peut-être qu'il y aurait un petit alinéa, abolir la propriété intellectuelle partout où elle tue. Je pense que ça serait pas mal.